Bonjour à tous, on va partir à Rome pour découvrir comment nos auteurs ici présents utilisent cet argument historique. Vous allez voir qu'on va aller dans tous les genres, le roman historique, mais aussi la fantaisie et la science-fiction, même si pour la science-fiction, on restera un petit peu à l'écart du cœur de l'histoire, parce que c'est un petit peu compliqué de vous parler de Führer en particulier. Mais on va s'intéresser et voir justement comment ces auteurs qui viennent d'horizons différents, qui viennent de genres différents, utilisent ce matériau de l'histoire antique et de l'histoire de l'Empire romain au sens large. Là encore, vous verrez qu'il y a des différences entre les uns et les autres, et jusqu'où parfois ils vont emmener ces Romains, quelquefois même très très loin de ce qu'on peut savoir. On va commencer avec Christina Rodriguez, d'abord parce que vous êtes celle qui va respecter le plus l'histoire de nos quatre auteurs, les autres...
La plus emmerdante, vas-y, dis-le carrément.
Mais non, pas du tout, au contraire. Avec la ressortie, la réédition de Sporus. Non, moi la première question c'est, qu'est-ce qui vous a fasciné en particulier dans cette période du 1er siècle après Jésus-Christ, puisque c'est celui qui vous intéresse régulièrement?
Parce que c'est le début de l'Empire, c'est vraiment c'est le domaine des possibles, et c'est les tout premiers empereurs, entre guillemets, et c'est une galerie des personnages absolument incroyable, et puis c'est en plus la période qu'on connaît le mieux.
Sporus, c'est un garçon qui a un destin vraiment particulier. C'est un personnage que vous avez inventé, ou c'est quelqu'un qui a existé ou qui aurait pu exister?
C'est quelqu'un qui a existé, mais sur lequel on a très très peu de sources. C'était le favori de Néron, un ancien prêtre de Cybèle. Il est cité, je crois, deux ou trois fois maximum dans les sources antiques, donc on ne sait presque rien sur lui, et c'est un personnage extraordinaire justement parce qu'on peut broder dessus à souhait.
Et vous lui en faites voir des vertes et des pas mûres, hein, ce pauvre garçon. Hein.
C'est le but.
Oui, enfin bon, quand même. Puisque le pauvre, il naît esclave, il se retrouve très jeune, on va dire les choses très clairement, dans un bordel, où on le déguise en fille, ce qui est quand même déjà un peu marquant pour un...
Ça dépend pour qui.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a un destin qui semble incroyablement contraire, au moins sur toute la première partie de son existence.
Ben, disons que Sporus est le fils d'un homme libre et d'une esclave. Donc à la base, si les choses s'étaient passées de façon plus sympathique pour lui, on va dire, il aurait certainement été... Comme c'est les pères qui primaient à Rome, c'était un patriarcat, il aurait dû naître libre, de toute façon, à rester libre et poursuivre sa petite vie tranquille en tant que citoyen libre. Ça ne se passe pas comme ça, puisque malheureusement son père décède, et que c'est sa belle-mère, donc on est un peu dans une espèce de cendrillon avec un garçon, et qui lui en fait voir justement de toutes les couleurs, et qui le prostitue, et qui va l'exploiter de toutes les façons possibles, imaginables, et surtout les plus horribles.
On va revenir sur ce personnage qui va vraiment, à un moment, alors peut-être même pas... en le faisant peut-être même pas exprès, mais renverser vraiment son destin par un coup de hasard qui va être justement la rencontre avec Néron. Mais on va faire parler un petit peu vos camarades. Fabien Clavel, qu'est-ce qui vous a donné envie, alors vous aussi, d'aller à un point très particulier de notre histoire qui se déroule alors à l'époque, je pense pas qu'on disait 9 après Jésus-Christ, c'était encore un petit peu tôt pour qu'on
s'en rende compte. Non, il y a la date pour rajouter...
753, c'est ça ?
Oui, c'est ça, voilà.
Donc on est en 762 après la création de Rome, de la ville.
Je vous fais confiance.
Pourquoi avoir choisi cet événement particulier, et de quel événement s'agit-il?
Alors, l'événement en particulier, c'est la défaite de Teutoburg. J'ai choisi ça parce que très souvent, quand on fait apparaître l'armée romaine, c'est une armée conquérante, c'est une armée victorieuse, c'est une armée avec un bel ordre fascisant, impressionnant, une espèce de fantasme esthétique autour de ses cuirasses et tout. Et moi, je voulais l'aborder, disons, par derrière, si je puis dire. Et oui, c'est une spécialité, et l'idée c'était de montrer justement cette armée romaine d'habitude complètement écrasante, comme elle peut apparaître dans le Spartacus de Kubrick, où vraiment elle est, c'est une masse invulnérable, et là j'ai pris la pire défaite de son histoire.
La pire défaite derrière, mais en débandade, donc c'est moins dangereux.
Voilà, Et puis là, c'est dans tous les sens, surtout. Hein. Donc, ce qui se passe en gros pour cet événement, qui est un événement vraiment historique, c'est que donc en 9 après Jésus-Christ, les Romains essayent de pacifier, selon leurs termes, la Germanie, et qu'ils ont dans leur côté un certain Arminius, qui est un local, même s'il a fait sa carrière à Rome en tant qu'otage, puis en tant que guerrier, et qui va se retourner contre les gens qui finalement l'ont adopté. Avec l'aide des populations locales qui finissent par se soulever. Et donc il y a 3 légions romaines, ce qui est absolument énorme. Je crois qu'à l'époque, il y en a 20 de légions romaines pour tenir tout l'Empire. Et 3 légions romaines vont être absolument massacrées. Et donc c'est vraiment une défaite absolument terrible. On connaît l'anecdote célèbre d'Auguste qui disait « Varus, le chef militaire en question, rends-moi mes légions, rends-moi mes légions », et qui se lamentait dans son palais à Rome. Voilà, donc moi j'ai décidé vraiment de confronter les Romains à ce qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est un mode de guérilla au niveau de l'affrontement armé. C'est ça qui fait aussi que les Romains sont complètement perdus. Et puis les confronter aussi à cette forêt germaine qui est absolument gigantesque, avec des arbres colossaux.
Et qui les entrave, parce que finalement, tout ce qui fait la belle mécanique de cette armée romaine, les tortues, les positions de force, devient totalement ingérable dans un contexte.
Oui, eux, ils sont faits pour se battre en terrain plat et découvert, et là, ils sont amenés en dehors. De toute façon, ils ne sont pas attaqués au moment d'une bataille, ils sont attaqués au moment où ils se déplacent. Et en plus, une autre erreur de Varus, ça a été d'étirer en fait, le cortège, et du coup, il est très très difficile à défendre. Et donc ça a été un massacre absolument inouï, et quelques années après, alors je ne sais plus qui raconte ça, je crois que c'est Tacite, raconte que plus tard, donc il y en a qui seront, ils reviendront venger l'honneur romain quand même, mais et ils retrouveront des ossements absolument partout. D'ailleurs mon roman commence par cette scène, on retrouve une plaine couverte d'ossements.
Avec le fameux Germanicus qui sera totalement impitoyable.
Exactement.
Dans la vengeance. Johan. Alors là, on va passer, pour l'instant on est resté très historique, même si on verra avec Fabien qu'il y a un moment où ça part dans autre chose. Mais alors, avec Johan et avec Julien, on va partir vers complètement autre chose, parce qu'on va s'intéresser, dès le point de départ, à l'imaginaire. C'est-à-dire que Johan, dans la Légion Écarlate, et d'ailleurs on va retrouver un peu la même idée chez Julien, vos Romains sont partis à la conquête de l'Amérique.
Alors, un peu malgré eux, pour ce qui concerne les miens, le projet de départ de ce livre, La Légion Écarlate, c'était de concilier deux de mes amours cinéphiles, le western et le péplum. Donc, je me suis dit, imaginons un western avec, au lieu de cow-boys, une légion romaine. J'aime beaucoup les légions romaines, c'est une passion peut-être pour ces hommes en jupette. Enfin, voilà. Alors, bien sûr, dans la réalité, ça aurait été techniquement délicat que des galères romaines franchissent le... Encore que, on sait que par exemple les Vikings ont pu atteindre, semble-t-il, après certaines fouilles plus ou moins récentes, certaines parties d'Amérique du Nord. Donc,
en tout avec des courants quand même très favorables.
Non mais voilà, admettons. Mais bon, ça disons, c'est là où il faut admettre, faire ce petit saut d'imaginaire pour admettre que c'était possible. Et donc, débarquant dans ce nouveau monde, pour eux, ils sont confrontés aux populations locales, nos Indiens à nous. Alors là, je me suis documenté sur, en revanche, les vraies tribus qu'on rencontre. Moi, je les fais débarquer dans ce qui serait l'actuel estuaire du Saint-Laurent. Et ils rencontrent les vraies tribus indigènes qui vivent là. Au début, il y a un premier contact qui se passe plutôt favorablement, un peu comme c'était le cas au début, par exemple, avec nos conquistadors. Le premier contact est toujours favorable. Et puis ensuite, nos légionnaires romains se comportent en légionnaires romains et vont décider de revendiquer ce territoire, de le coloniser à leur manière. Etc. Sauf que, un petit peu comme dans le livre de mon camarade, ça ne va pas se passer aussi bien que prévu, parce que ces indigènes, ces tribus... autochtones savent se battre aussi d'une manière fort différente effectivement de celle à laquelle sont habitués les légionnaires romains, et ça se passe, une partie de ma légion est anéantie, et on va suivre ensuite toute cette histoire du point de vue d'un simple légionnaire de base qui, dégoûté par le comportement de son général envers ses tribus autochtones, va déserter et va traverser une partie de ce nouveau monde en vivant avec les Indiens.
Litellus Bigbanus.
Exactement, je crois que sortait un
excellent surnom. Julien, on va passer alors encore un cran au-dessus dans l'imaginaire, puisque là on est carrément dans la plume du Quetzalcoatl, dans un empire romain qui a perduré.
Oui, tout à fait. Le point de départ, c'était d'imaginer vraiment une république romaine, pour la peine, bien avant l'Empire, qui a déjà été influencée.
Si oui, j'ai pas cette célébration. Ou alors c'est vraiment parce que je suis pas de bord, désolé. Donc, oui, le point de départ, c'est d'imaginer vraiment une république romaine qui est influencée par une mythologie bien réelle, par son panthéon hérité des Grecs, et qui, sous cette influence, a réussi non seulement à perdurer, mais qui a gardé aussi, on va dire, un peu plus des bases républicaines grecques, et qui donc, dans son expansion colonialiste, garde quand même cette velléité de représentation des provinces et d'une certaine coordination et d'une certaine entente entre les différents peuples qui composent la Grande Rome.
Et donc on est dans une période qui pourrait être la fin du 19e, début du 20e,
oui, voilà,
pour notre époque.
En tout cas,
sauf
c'est
que
quelque
New York
chose...
s'appelle Nouvelle Rhodes.
Nouvelle Rhodes, enfin je m'amuse un petit peu avec les codes, avec, en essayant de retrouver oui, des parallèles. Je dirais que c'est d'autant plus facile de trouver des parallèles, parce que c'est vrai que les États-Unis sont très issus quand même de la colonisation britannique victorienne, elle-même impériale, donc c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de passerelles qui sont assez amusantes.
Et là finalement, on est dans une conquête qui est une volonté divine, là, pour le coup, et pas simplement une volonté politique d'un empereur.
C'est une, oui, c'est une, en fait, c'est un peu une espèce d'action coordonnée de prise de pouvoir, mais qui se rapproche autant du colonialisme traditionnel que de la prise de pouvoir économique, un peu comme une OPA. C'est, on met la main sur des territoires avec ses intérêts économiques, avec aussi ce que peuvent apporter les gens sur place en termes de manœuvre et vraiment de spécialisation à l'échelle mondiale dans un univers qui se divise dans des très grands blocs qui n'ont jamais existé. C'est vrai que je ne fais que l'effleurer dans ce livre, mais la construction de l'Empire romain se fait aussi par rapport à d'autres grands blocs. Il y a une logique plus globale et plus mondiale qui ressemble peut-être plus à l'expansion des grandes colonies anglaise, française, à la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que je me suis amusé avec ça en trouvant les parallèles, effectivement.
Christina Rodriguez, Sporus va donc faire la rencontre avec Néron, presque par hasard.
Oui.
Presque sans s'en rendre compte lui-même.
Oui. Son corps défendant, même, on va dire.
Dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme. Non, il est sur les jardins du Palatin et il rencontre un type, mais moche, con, l'horreur. Enfin, il l'envoie promener parce que il ne voit aucun intérêt à cette espèce de grand garçon roux à moitié myope, vraiment sans aucun attrait. Et en effet, il va s'apercevoir trop tard, c'est-à-dire une fois qu'il l'a envoyé paître, qu'il s'agissait ni plus ni moins que de Néron. Néron, vous en avez tous entendu parler, hein, c'est le neveu de Caligula, le fils adoptif de Claude, dont l'arrière-grand-oncle était Germanicus.
famille.
Grande famille, quoi, voilà. Et en effet, Néron va tomber amoureux de lui et il va essayer de lui remettre la main dessus. Il va même en faire sa femme, au sens propre du terme.
Il va l'épouser.
Il va l'épouser, vraiment. Et ça, par contre, c'est historique, on a les sources.
Et c'est quelque chose de très étonnant, parce que finalement, à travers ce destin si particulier, on découvre la vie quotidienne, mais aussi surtout les mœurs de cette époque. Et avec notre regard d'aujourd'hui, il y a quand même un décalage certain.
Totalement. Mais alors attention, on reste quand même dans les mœurs de la haute société. On n'est pas dans la plèbe, là. Donc c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus, on dirait aujourd'hui, décadent, quoi. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une décadence. Il ne faut pas non plus croire que tous les Romains avaient cette mentalité-là. On est vraiment autour de Néron, parce qu'on a les mythes de Néron, de cette espèce de fou adorant le feu. Ce n'est pas du tout ça, Néron, hein, c'est un artiste avec une âme d'artiste et qui était entouré d'intellectuels. Donc c'est vrai que le pauvre Sporus, il est propulsé là-dedans, lui qui vient de la plèbe, qui n'a aucune éducation, il confond les parcs, enfin bon, c'est une catastrophe. Lorsqu'il est dans un banquet, il ne comprend pas la moitié des choses qui se disent, enfin bon, ce qui donne des situations très très amusantes. Mais c'est vrai que ce qu'a fait Néron, c'est-à-dire épouser Sporus, au bout d'un certain moment et à travers évidemment plein d'aventures, des voyages en Grèce, des concerts, des choses comme ça, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut savoir que ça a beaucoup choqué l'époque quand même. Ce qui ne choquait pas, c'est vrai, c'était l'homosexualité dès l'instant qu'on n'était pas passif. Parce que être actif, ça posait aucun problème, mais par contre, être passif, c'était très très mal vu. Donc c'était très différent de nous, toute proportion gardée, et en fonction aussi des classes sociales.
Fabien, vos légions, donc on l'a dit, on est jusqu'à un certain point dans la réalité historique, on est dans une espèce, à un moment c'est Apocalypse Now en fait, ce que vous nous racontez, hein, sauf que c'est pas une jungle asiatique mais que c'est une forêt germanique, mais sinon c'est vraiment comment un simple terrain finalement sert à égaliser les forces finalement entre deux armées dont l'une aurait dû écraser l'autre, et finalement c'est l'inverse qui se passe. Et puis il se passe quelque chose, alors je vais laisser l'auteur parler lui-même, ça m'évitera de dire des bêtises, il dira bien ce qu'il voudra sur son livre, mais il se passe quelque chose avant vraiment la débâcle qui va par la suite changer tout. Comment est venue l'idée de mêler un sujet de science-fiction et un roman historique sur la Rome antique?
Alors, si je me souviens bien de la jeunesse du bouquin, c'était... je m'en souviens plus, d'ailleurs, donc je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose. L'idée là, de faire le parallèle, effectivement, avec la guerre du Vietnam, c'était voulu dès le départ. C'est-à-dire que si le bouquin s'appelle « Fourore », j'ai des raisons très intellectuelles à donner, mais c'est aussi que...
On va en parler aussi.
Voilà, au départ, c'était... je me suis inspiré de Predator et de... Non, même pas Fourier, je ne l'ai pas vu. Mais non, mais c'était Predator, effectivement, les gars dans la jungle.
Oui, parce qu'il y a un ennemi invisible. Hein.
Voilà, par un ennemi invisible. Je suis parti de là. Et en fait, ce que je voulais, c'était qu'ils soient confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, après, j'ai brodé là-dessus. En gros, ça apparaît sous la forme d'une pyramide noire qui semble avoir des pouvoirs particuliers. Et ce qui me semblait intéressant dans le roman, c'était de proposer un roman de science-fiction qui puisse être lu aussi comme un roman de fantasy. C'est-à-dire que si on adopte le point de vue des Romains, comme eux, ils ont une explication magique, divine, de ce qui leur arrive, puisqu'après ils vont essayer de chercher à rentrer dans la pyramide. Le lecteur, lui, évidemment, avec ses connaissances actuelles,
comprend un peu ce qui se passe.
Ouais. Comprend très vite, en fait, parce que l'idée, c'était pas d'en faire une révélation d'un seul coup, c'était vraiment de confronter ces deux points de vue. Donc eux, ils ont des explications d'ordre mythologique, et nous, on va avoir une explication rationnelle par rapport à la technologie qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, je donne pas d'explication sur comment les choses arrivent, parce que je voulais mettre les gens sur le même plan, finalement. C'est-à-dire qu'on a deux modes d'explication, on a deux paradigmes qui s'affrontent, un paradigme magique où l'aspect moral est prime, tandis qu'on est dans un paradigme scientifique de l'autre côté, dans notre lecture à nous. Dit comme ça, ça a l'air très chiant, hein,
mais c'est passionnant.
Voilà. Enfin, j'espère que c'est un peu intéressant. Mais en gros, c'est ça. Essayer de confronter les deux, parce que mon but, en gros, en général, c'est de montrer que finalement, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. C'est que pour moi, la science-fiction et la fantasy se rejoignent, se touchent, et parfois, il suffit d'un mot dans un roman pour basculer d'un genre à un autre. Et donc ce roman, c'était l'occasion de montrer que c'est une question de point de vue, on déplace le point de vue, le romain lit un roman de fantasy, le lecteur lit un roman de science-fiction.
Alors Johan, justement, dans La Légion écarlate, on est dans la science-fiction, on est dans la fantasy, qu'est-ce qui sert finalement l'argumentaire et le genre.
Je rejoins tout à fait là, mon petit camarade sur ses intentions, tout dépend du point de vue que l'on adopte. Techniquement, si on va nous lâcher les gros mots, c'est une uchronie, car c'est une histoire qui n'est jamais arrivée, qui aurait peut-être éventuellement, si l'on veut, pu arriver, mais c'est tout. Donc c'est une uchronie. Mais comme tout est raconté du point de vue de mon légionnaire de base, et que lui-même, étant confronté également à des peuples qu'il ne connaît pas, qui ont des pratiques inconnues pour lui, il en a une lecture magique. À un moment, il croit voir des choses, mais bon, je fais deviner au lecteur qu'à ce moment-là aussi, il vit déjà chez certaines tribus et il a absorbé certains produits hallucinogènes. Donc, qu'est-ce qu'il voit réellement? Mais lui, on a une interprétation magique, comme un Romain de base l'aurait, puisqu'il croit une certaine magie effective. Donc, par ce biais-là, on rejoint effectivement une certaine fantaisie.
C'est vrai que finalement, ce qui pour eux était naturel devient pour nous de la fantaisie, en fait. Leur quotidien devient de la fantaisie.
Voilà, tout à fait. Alors là, c'est plus exactement les certaines pratiques et certains rituels des tribus d'Amérique du Nord, voilà, qui sont vus de façon, voilà, qui sont lus par le biais de la magie.
Alors là encore, avec Julien, on est à la limite des genres, hein, puisque finalement, on est dans un univers presque steampunk par moment, donc on oui. est dans de la science-fiction. Et oui, puis, on croise des personnages, dont un satyre, le fameux Dom, qui lui est un pur personnage de fantasy.
Oui, bah, de toute façon, je pense que ce qu'on peut donner comme steampunk ou uchronie, ce sont des vernis qu'on rajoute à quelque chose. Donc, moi, je présente toujours que c'est d'abord un roman d'aventure, et après, évidemment, l'univers est le plus coloré possible et en tout cas, le plus inédit que j'ai pu trouver dans le recoin de ma tête. Et, non, mais oui, le côté fantasy, où, on peut mettre les étiquettes qu'on veut dessus, mais c'est avant tout un roman d'aventure. Et
très drôle en plus.
J'essaye en tout cas.
Ah oui, non, mais je le dis sincèrement. L'argument de la plume du Quetzalcoatl, donc, c'est on comprend que la conquête s'est faite quelques années plus tôt.
Oui.
Que ça a déclenché une guerre terrible entre les panthéons
romains et les panthéons amérindiens. Et c'est vrai que je me suis pas mal amusé avec c'est vrai que les panthéons romains et grecs sont très ancrés dans les écrits et du coup sont très monoblocs. Et c'était amusant de mettre les panthéons amérindiens et de créer un lien dans toute cette diversité des mythes fondateurs. Amérindien et essayer de les refondre en un seul bloc comme ça, de la même façon qu'on peut avoir la mythologie dite européenne, latine quoi.
Et donc quelques années ont passé, l'Amérique est normalement terre romaine et pacifiée, d'ailleurs le personnage principal est pacifieur
oui.
Et il découvre une plume sur la tête d'un indien, voilà. Jusque là est quand même
assez classique
logique et cohérent, mais cette plume est un peu particulière.
Voilà, parce que c'est une plume qui est de toutes les couleurs à la fois. Et cette plume, pour donc mon personnage principal, le pacifier Artorius, elle ne peut être originaire que d'une seule divinité, c'est le serpent à plumes, le Quetzalcoatl, qui est réputé abattu par la déesse Athéna.
Et donc normalement, s'il était mort, la plume aurait perdu ses couleurs.
La plume aurait dû perdre ses couleurs.
Donc ça veut dire que le Quetzalcoatl est vivant.
Voilà, et que en fait la guerre n'est pas totalement terminée malgré toute la paix romaine qu'on a pu lui inculquer en disant que c'était des histoires enterrées depuis longtemps.
Le pacifieur, il prend ce nom-là qui, j'imagine, une invention.
C'est
un légat finalement.
Oui.
Ou c'est un peu plus que ça.
En fait, je me suis amusé avec le terme de pacificator. C'est vrai qu'il est un terme très guerrier finalement. Et là, donc, j'ai essayé d'imaginer un espèce de diplomate, mais qui n'aurait que comme fonction de justement veiller à la bonne entente des provinces avec le régime central de Rome.
Et donc. Eh ben, on va revenir sur Artorius dans quelques instants. Christina Rodriguez Porus, donc, il a cette vie absolument étonnante où il passe donc d'esclave et même d'esclave sexuel, disons-le, jusqu'à prêtre de Cybèle, où il pense enfin être sorti de l'ornière, où finalement il se rend compte qu'il a juste changé.
Il va vivre la pire expérience pour un homme, c'est qu'il va être castré. Et il faut savoir que la castration à Rome.
Ça encore, il n'était pas au courant.
Il est un peu nunuche, hein, Sporus, hein. Mais c'est ce qui le rend aussi attachant et aussi drôle d'ailleurs. Non, il faut savoir que la castration des Galles à Rome, ce n'était pas uniquement les testicules.
C'est-à-dire donc les Galles, c'est les prêtres de Cybèle.
C'est les prêtres de Cybèle. Ce n'était pas les testicules, c'est comme les eunuques indiens, c'est-à-dire qu'on coupait tout. Donc il se retrouve vraiment transformé en femme, là pour le coup, totalement. Et ça pour lui, il vit ça évidemment comme n'importe quel homme, c'est-à-dire comme une catastrophe. Et puis finalement, il n'a pas le choix, il va s'habituer à vivre avec, et puis voilà.
Et justement, il arrive... on a l'impression qu'il traverse les événements qui lui arrivent. Tout lui arrive malgré lui. À chaque fois, il est effectivement surpris de ce qui se passe en bon comme en mauvais. Au début de sa vie, il va même prendre sur lui pour sauver une petite fille. Hein, et c'est quasiment lui qui va trinquer parce qu'il est esclave et qu'il a voulu protéger cet enfant. Et puis, petit à petit, le sort va se retourner et il va devenir...
le concubin de Néron,
de l'empereur.
Mais en fait, Sporus va subir les événements. Il va vivre. C'est des choses atroces, énormément de choses et des choses atroces. Mais là où ce personnage est absolument attachant et adorable, c'est que c'est horrible. Il vit des expériences qui nous mettraient tous à genoux. Mais il a cette énergie. Il a ce pouvoir de positiver, d'aller de l'avant. Qui nous le rend adorable. Parce que c'est vrai qu'on aimerait tous être comme ça, et c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, garde toujours le sourire. Ça peut faire cliché, mais il communique un peu de cette énergie quand on travaille sur ce personnage. C'est un souffle d'air, quoi, vraiment.
Et vous avez un petit peu déjà abordé le sujet, mais moi je voulais qu'on en parle un petit peu plus précisément, qui est celui de Néron. Parce qu'effectivement, on a tous plus ou moins grandi dans cette image de Néron jouant de la lyre devant l'incendie de Rome. J'ai dit qu'effectivement, au départ, c'est difficile de ne pas voir Peter Ustinov dans le personnage de Néron.
Mais il lui ressemble, hein, c'est ça.
Dans sa personnalité de Covadis. Et justement, on découvre un personnage très très différent parce que... Alors, comment dire ça ? Il est certainement complètement fou comme l'autre, mais c'est pas la même folie du tout.
Non. Parce que déjà, on va couper la tête à une idée reçue. Néron n'a pas incendié Rome, hein, que les choses soient très claires. Il n'était même pas là quand c'est arrivé. Il était Antium. Hein, c'était à 60 bornes quand même. À l'époque, ça faisait beaucoup.
Une longue mèche.
Ça fait une longue mèche. Mais surtout, il fallait savoir qu'à cette époque, il y avait les premiers chrétiens. Ils étaient 2000 à Rome, hein, parce qu'on dit toujours que Néron assassinait des centaines de milliers de chrétiens. Ça risquait pas, il y en avait 2000 maximum, sur 1 million d'habitants, ce qui est quand même pas grand-chose. Et la chrétienté a commencé comme toutes les religions, c'est-à-dire par des sectes. Et des sectes totalement folles et totalement hystériques. Et on sait aujourd'hui que c'est très probablement ces sectes romaines qui ont incendié Rome, et pas Néron. Ces sectes chrétiennes, je veux dire. Et lorsque l'incendie a eu lieu, Néron s'est précipité d'Antium à Rome, il a ouvert ses maisons pour les sinistrés, il a immédiatement fait le nécessaire. Donc il faut absolument déjà couper le coup à ça. Fou, il était fou comme tous les artistes, comme on l'est tous. Néron n'a jamais voulu être empereur. C'était pas son truc. Lui, il aimait l'art, il aimait la littérature, il aimait l'écriture, il écrivait très bien. Il ne chantait pas, c'est pas qu'il chantait pas très bien, tout le monde dit qu'il avait une très belle voix, mais elle ne portait pas. Donc quand vous sentez dans un amphithéâtre, c'est un peu gênant parce qu'il n'y avait pas de micro. Donc évidemment, bon, on l'entendait dans les premiers rangs, il était timide, il avait le trac, alors évidemment c'est encore pire. Mais Néron, c'était ça, c'est un artiste qui a voulu rester artiste jusqu'à la fin, qui a essayé d'être empereur, qui n'y est pas arrivé, et qui s'est fait aussi dévorer par tous les rémoras qu'il avait autour et qui bien sûr profitent des gens comme ça.
Fabien Clavel, vous avez prononcé un mot tout à l'heure, c'est les confronter à l'inconnu. Moi j'ai trouvé que c'était une des thématiques très intéressantes du roman, c'est qu'effectivement nous le lecteur, on est un peu comme pardon pour la comparaison, mais un peu au théâtre de Guignol, c'est-à-dire que on voit le gendarme derrière et on a envie de les avertir en leur disant attention derrière toi. Là c'est pareil, on a envie de leur dire mais n'allez pas par là malheureux, n'allez surtout pas par là, parce que ce qui est terrible et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le but c'est pas la révélation de ce qui se passe, c'est le fait que le drame en devient inéluctable et qu'on ne peut rien faire que de les accompagner dans ce qui va forcément être une abomination totale.
Oui, c'est en fait, je me suis aperçu assez rapidement que ce que je voulais raconter, c'était une tragédie, parce que finalement, c'est une bataille qui est assez connue, mais moi, qui suis prof de latin, donc je ne la connaissais pas. Je vais être franc, avant de chercher, en fait j'ai d'abord eu l'idée de travailler sur une défaite de l'armée romaine, donc j'ai cherché les pires défaites de l'armée romaine. Je cherchais autour de cette date-là, ceux qui liront le livre comprendront pourquoi. Et elle tombait parfaitement. C'était une bénédiction pour moi de tomber sur cette guerre. Et donc je me suis renseigné à fond là-dessus pour essayer vraiment de la reconstituer de la façon la plus précise possible. Mais il n'empêche que cette bataille est connue. Et donc on sait comment ça va se terminer. Et en fait, j'ai prolongé, une fois que la bataille est achevée, que les gens sont massacrés et tout, une grosse partie en tout cas, il fallait que la tragédie continue. Et donc effectivement, j'ai continué d'adopter un point de vue tragique, sauf que là, au lieu d'avoir la connaissance historique qui nous dit « tu vas te faire massacrer », fait demi-tour, c'est ne va pas dans cette pyramide noire, on sait très bien que ça ne te fera pas de bien. Et du coup, donc, effectivement, le roman est construit sur le modèle de la tragédie latine, selon Sénèque, qui a été proche de Néron, ça ne lui a pas profité complètement, il a mal terminé, avec un suicide raté d'ailleurs, on l'a un peu aidé après. Le suicide de Néron, c'est de Néron, il était plutôt réussi, mais on l'a aidé aussi. Mais le suicide de Sénèque, là aussi, c'est du grand guignol. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, en fait, je me suis aperçu que je pouvais reprendre les thématiques de la tragédie latine, qui est représentée pour nous uniquement par Sénèque. On n'a pas tellement d'autres textes. Et j'ai lu des études sur la tragédie latine. Et notamment, il y a une citation que je donne à la fin, qui est une citation de Florence Dupont, qui dit qu'en fait... ce qui caractérise la tragédie latine, c'est notamment un rituel qui va être transformé, c'est-à-dire un anti-rituel. Par exemple, dans Médée qui tue ses enfants, ça commence par un rituel où elle fait un anti-mariage avant de se venger de Jason. Et donc tout a été construit comme ça, et d'où le terme d'ailleurs furor. Le furor, c'est l'état dans lequel rentre le héros mythologique, le futur monstre, parce qu'il va toujours commettre un crime absolument odieux. C'est l'état dans lequel il va être tout du long. Et il va passer par plusieurs étapes qui sont décrites par...
Parce qu'il y a l'abattement au début,
voilà.
Et puis ensuite il y a la révolte, et de la révolte naît une colère qui fait qu'on espère pouvoir inverser le sort.
Voilà, en commettant un crime absolument ignoble qui va contre toutes les lois divines.
Impie.
Voilà, un crime impie. Voilà, et donc ça s'est construit comme ça, et du coup le roman est en deux parties, effectivement. La tragédie de la première partie, c'est qu'on sait ce qui va se passer, la deuxième aussi, mais pour des raisons complètement différentes.
Même question un peu dans ces personnages que vous emmenez comme ça vers ce qui pour eux est l'inconnu finalement. Et là aussi il y a un jeu avec le lecteur, puisqu'on les confronte à quelque chose que lui connaît quand même plus ou moins, ou en tout cas à des images en tête là-dessus. Là aussi il y a un plaisir d'écrivain de se dire bah voilà, je vais susciter des images chez le lecteur et ça va le surprendre.
Oui, alors, le surprendre tout en l'amenant finalement là où l'histoire ne peut qu'aboutir. Ça ne peut pas être une happy end, même si on est dans l'entre-deux. Voilà. Et à ce genre, le modèle qui m'aurait inspiré, j'ai une comparaison en toute modestie, Fabien parlait d'Apocalypse Now, mais moi c'est vraiment le récit de Conrad au cœur des ténèbres. C'est la même structure. On suit au départ un militaire de base, bête et discipliné comme le bon militaire de base doit l'être, qui comme
les généraux romains.
Oui, non, mais sinon ça marche pas. Sinon vous envoyez personne faire mourir si vous. Et qui à un moment donné confronté donc à un tel décalage mental par rapport à ses à son monde, lâche prise. Il finit par lâcher prise mentalement au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans à la fois dans ce décor, ce paysage cette civilisation inconnue. Voilà. Alors il finit par rencontrer non pas son colonel Kurtz, mais enfin, voilà, peut-être quelque chose qui ressemble. Mais...
Kurtzus ?
Kurtzus, oui.
Mais c'est effectivement là, quand on vous en entend parler, on se dit, mais oui, c'est presque naturel finalement, ce qui est quand même assez particulier.
Ah oui, alors si je comprends bien la question, je pense que effectivement ce phénomène-là, il peut être appliqué sur toute la civilisation, il est quelque part universel, effectivement. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être des processus mentaux à l'œuvre, peut-être chez les... Ça participe peut-être un petit peu de ce fameux, comment on appelle ça, ces chocs psychologiques, vécus par les traumatismes, voilà, vécus par les vétérans de retour. C'est un peu ça, et je pense que c'est universel, que chaque soldat confronté à ce genre d'événements, alors là pour le coup purement imaginaire, ou véritables événements, peut vivre à un moment donné, à titre personnel, cette expérience, tout à fait, oui.
Julien Binson, Artorius, c'est un personnage J'allais dire seul, il serait, il passerait presque inaperçu, mais vous lui adjoignez donc ce fameux satyre qui s'appelle Dom, et d'un seul coup, il forme un duo totalement improbable qui va vivre les plus étonnantes aventures dans un contexte qu'on a essayé de décrire tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à y découvrir.
Il y a beaucoup d'éléments, oui. Beaucoup d'éléments très mélangés.
Pourquoi justement avoir choisi ce duo entre un héros et un anti-héros?
Alors,
parce que dès le départ, on sait que Dom est un personnage qui va être particulièrement agaçant.
Oui. Bah, en fait, je sais pas. En fait, le personnage du pacifier Artorius, en même temps, il est extrêmement neutre. Et c'est vrai que il y a forcément, c'est plus par les gens qui l'entourent, les fréquentations, les gens à qui il arrive à s'attacher, qu'on peut commencer à esquisser plus facilement sa personnalité. Mais c'est vrai que il correspond très bien à sa fonction, c'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un de très neutre, qui laisse pas transparaître beaucoup de choses, qui se laisse beaucoup de place pour la réflexion, savoir préparer, enfin tout est réfléchi chez lui. Et donc c'était comment? Après, c'est pas un personnage parfait, hein, il est bourré de défauts aussi, mais c'est vrai que c'était intéressant de mettre en face un personnage qui était très dans l'instantanéité. Et c'est vrai que je dirais que Dom, c'est un peu c'est un peu l'humour noir qu'on aimerait avoir en permanence, en instantané, comme ça.
Je vous ai dit, je vais le dire en public aussi, mais je vous ai dit que moi, il me faisait penser à l'âne de Shrek.
Oui, il y a un peu de ça, c'est un ressort comique permanent. Mais c'est vrai que, bon, après, je me suis amusé à le déformer un petit peu au fur et à mesure du récit. C'est vrai qu'au début, on y voit qu'un ressort comique, quelqu'un qui sait placer la bonne phrase, la bonne réflexion, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on peut l'appréhender un petit peu autrement, parce que finalement, l'homme d'action qui est dans le présent, c'est lui. C'est lui qui, physiquement, est efficace, qui est là, qui est rapide, qui sait prendre les décisions rapidement et se sortir des situations. Finalement, c'est un contrepoids idéal pour mon personnage principal.
Avec un Artorius qui, mine de rien, quand il revient, quand il retraverse l'Atlantique avec sa nouvelle mission, c'est quand même... Parce que vous disiez qu'il était neutre, mais il est moins neutre en repartant, finalement. Parce que il sent bien qu'il a il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sauf qu'il ne sait pas qu'il est en train de couper le crin.
Exactement, oui. Il sait pas, il est toujours un petit peu... je pense que, comme peuvent l'être les diplomates, il est fait, pour être un peu familier, il a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire
on
qu'il
l'envoie
doit
au casse-pipe,
pas...
en fait.
Voilà, on l'envoie au casse-pipe. Et il sait très bien que là, on l'envoie... il va pas être très bien accueilli, mais il se rend compte très vite aussi que la menace, elle peut venir aussi derrière lui et même peut-être de ses commanditaires.
Donc, voilà. Effectivement, il va avoir besoin
de se méfier de tout le monde et de naviguer en eau trouble du début à la fin de son voyage sur plusieurs milliers de kilomètres.
Puisque effectivement, il arrive à Néorode, mais ce n'est pas le but vraiment de son voyage.
Vraiment,
ça va être beaucoup plus loin. Mais là encore, on va laisser les lecteurs découvrir, parce qu'il y a plein de surprises, et il y a plein de choses très amusantes à l'intérieur. Christina Rodriguez, Sporus, qui va découvrir au contact de Néron, c'est la vie de cour aussi.
Oui.
Et là, pour le coup, il va entrer dans un monde, c'est pas seulement sa naïveté habituelle, c'est que là, il va vraiment rentrer dans quelque chose qui est très codifié, finalement, et il va débouler là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles.
Imaginez un adolescent de banlieue rappeur qui se retrouve à la cour de la reine d'Angleterre. Ça fait à peu près ça.
En étant favori de la reine.
En étant favori de la reine. Si ce n'est que, Sporus n'est pas aussi vulgaire qu'un rappeur, très loin de là. Mais non, il va découvrir des codes, il va découvrir les dangers de la cour, parce que c'est un panier de crabes.
C'est un panier. Il va faire des jaloux.
Il va faire des jaloux. Et évidemment, il y a d'anciens favoris qui vont vouloir lui donner le pion, qui vont vouloir s'en débarrasser. Donc il va découvrir tout ce jeu-là qu'il ne sait absolument pas manipuler, qu'il ne sait absolument pas gérer. Mais à l'intérieur de la cour, c'est un garçon qui est tellement naïf, tellement quelque part sympathique et attendrissant qu'il va trouver des alliés inattendus. Et entre autres, le fameux Pétrone.
Et justement, cette guerre de pouvoir, alors en plus avec un empereur, on l'a dit, qui a tout sauf envie de régner.
Oui, et qui est dépassé.
Donc qui finalement laisse faire et laisse aussi finalement se dérouler parfois un peu de cruauté quand même malgré tout. Hein.
Oui, parce que quelque part quand Agrippine, sa mère, était encore vivante, parce qu'il a, il a fait tuer sa propre mère hein, quand même, paraît-il. Mais quand Agrippine...
Elle l'avait un peu cherché quand même.
Elle l'avait un peu cherché. Quand Agrippine est encore vivante, elle arrive encore à lui serrer la vis. Maintenant qu'Agrippine et Sénèque n'étaient plus là... Néron, il partait un peu en live, quoi. Donc, c'est vrai que parfois, ça dérapait.
C'est qu'il va nous faire une grande tournée de concert
international. Ah oui, mais exactement. Il est parti, il a fait une tournée de concert international à travers tout l'Empire. Donc, je vous laisse imaginer. C'était part, la rockstar.
Il part avec un Barnum, c'est
Ah oui,
c'est
oui,
quelque
il part avec... il part avec toute sa cour, avec des sénateurs, avec des amis, avec du matériel, avec des esclaves. Enfin, quand il a débarqué en Grèce, et à l'époque, la Grèce avait énormément des problèmes économiques, les gens crevaient de faim et lui il est arrivé, c'était les orgies, c'était les banquets, c'était les concerts, donc je vous laisse imaginer l'effet désastreux que ça a pu avoir,
Et justement tout ça vous nous le faites découvrir parce que là encore on en revient mais on a tous plus ou moins des idées fausses sur cette période même si on voit qu'il ne faut pas non plus aller à l'opposé complet
non,
et que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais simplement on se rend compte quand même que c'est une période complexe, assez instable,
oui.
Assez délicate, qu'on est loin justement de l'Empire triomphant
d'Auguste,
où,
hein, oui.
Voilà, où, et vraiment de la pure conquête et que ça grogne de partout. Que ça se passe pas bien, que les impôts ne rentrent plus, que il y a des difficultés alimentaires, etc. On découvre finalement une Rome bien moins clinquante, en tout cas quand on soulève un peu le rideau, que ce qu'on a pu imaginer ou entendre ou lire habituellement.
Ben, on est ni plus ni moins que dans quelque chose qu'on connaît actuellement, même si ce n'est pas à ce point-là, parce qu'il n'y avait pas la mondialisation comme c'est le cas aujourd'hui, mais dans une sorte de crise. Et c'est vrai que Sporus, lui qui est totalement innocent, qui va arriver là-dedans, une fois qu'il s'habitue, il va seulement voir les fastes, les jolies robes, les choses comme ça, ben, il va découvrir qu'il y a des gens derrière. Que derrière l'Empire, eh ben, y a des peuples à gérer, il y a de la misère, il y a de la politique intérieure, il y a de la politique extérieure. Et tout ça, il va le découvrir, ça va lui tomber sur la gueule, comme on dit, parce que vraiment, il ne s'attend pas à tout ça. Et c'est en effet une période très très instable, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier siècle, c'est le moment où l'Empire se fabrique. L'Empire au sens d'Imperium, mais pas au sens de l'Empire où on l'entend maintenant. C'est-à-dire.
Et c'est une fin de dynastie.
C'est une fin de dynastie.
C'est quelque chose qui est,
Julio-Claudien,
qui est très
oui.
important, oui. Donc effectivement, lui, il arrive là-dedans, il est un peu dépassé.
Voilà, il va vivre ça jusqu'à la mort de Néron, justement, dont on en parlait tout à l'heure, qui est décrite, et un petit peu après, parce qu'il se passe des choses un petit peu après.
Une très belle fin, on peut le dire. Fabien, on a parlé de la tragédie, mais il y a aussi le mythe du héros dans Furor, mais du héros au sens, là encore, antique. On suit quatre personnages, qui sont quatre des rares survivants du massacre dans cette forêt. Et alors justement, qu'est-ce qui caractérise le héros antique par rapport peut-être à une notion plus contemporaine qu'on peut avoir de ce héros?
Oh, j'ai l'impression que la notion de héros contemporaine est quand même encore très très imprégnée de mythologie. Et justement, moi ce que j'aime, c'est des héros qui échouent. Et donc moi, c'est une bande de losers finalement. C'est des gens qui ont perdu la guerre, qui en plus... ils vont de Charybde dans ce qu'il a, c'est-à-dire qu'ils ont échappé aux Germains et ils vont dans cette pyramide noire et c'est quasiment pire, quoi. Donc non, c'est la grosse lose, vraiment. Donc je sais pas, les héros, non, il n'y en a pas justement, il n'y a pas de héros là-dedans.
C'est surtout plus ils cherchent des solutions, plus ils aggravent leur cas.
Voilà, et pire c'est, et on a envie effectivement de les prévenir, de dire que ça ne va pas. Alors en plus, la plupart des personnages que j'ai choisis, donc dans les quatre, ce sont des personnages qui chacun ont une manière d'être un peu extérieur à l'action. Il y en a un qui est un vieux soldat qui d'ailleurs est tiré directement de la documentation qu'on a. On a une stèle qu'on a gardée de l'époque où on sait qu'il il est passé par le coin
et qu'il a monté tous les échelons hein, puisqu'il est parti
et qu'il
tout
a monté
en bas
et qu'il monte de tout en bas et quelqu'un dont la carrière est arrêtée parce qu'il n'a pas le niveau social suffisant pour aller au-dessus. Donc c'est une manière d'être extérieur, parce que lui, il y croit, il veut monter et tout, puis là, il arrive à 50 ans, et c'est la fin de sa carrière, quoi. C'est un vieux machin, quoi, pour l'époque, et surtout dans les conditions... Non, le prends pas pour toi. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour lui, voilà, dans une carrière militaire, il est déjà très heureux d'en être arrivé là. Il n'espère pas de... Il n'y a rien d'autre qui l'attend à Rome, etc. Donc, c'est une manière...
Sa survie, c'est l'armée.
Sa survie, c'est l'armée, mais il est bloqué. Donc, il est un peu en dehors. Il y en a un qui est, qui est proche des généraux, donc il y a un haut officier. Mais lui, c'est un intellectuel. Et du coup, bon, il passe son temps à nous réciter des poèmes latins et tout. Il voit tout sous le prisme de la littérature et il est complètement décalé aussi.
Il est assez étonnant parce qu'il a vu Varus s'enliser lamentablement, mais en même temps, il n'a rien fait.
Mais en fait, c'est un peu justement, Varus, d'une certaine manière, incarne le héros à l'ancienne. C'est-à-dire tout le monde le suit en disant « il va nous sauver » et tout. Et ben non, il se plante et, comme un être humain et tout le monde se plante avec. Et puis, il y a le côté, on suit le chef. On était aux soldats de base tout à l'heure, mais là, ils ont beau être en haut de l'échelle, ils suivent, quoi, parce que ça rigole pas non plus, l'armée romaine. Hein, et Varus, effectivement, est complètement aveuglé, en plus. Donc, il y a celui-là qui est en dehors aussi, parce que lui, voilà, en gros, il a envie d'écrire ses poèmes au lieu de compter les morts et de faire l'appel. Et puis, on a alors un qui est un soldat qui est arrivé d'ailleurs, qui arrive de Cappadoce, qui veut retourner chez lui, en fait. Donc, il est au milieu de ces grandes forêts, très humides, très sombres, et lui, il pense au soleil, à la sécheresse. Donc, il est complètement à la masse. Il est content que quand il part en éclaireur pour voir un petit peu.
Avec son chien pour aller chasser.
Voilà, avec son chien. C'est le seul qu'il apprécie, en fait, ce chien. Et la quatrième personne, c'est une prostituée germaine qui est en fait une captive et qui, elle aussi, est complètement dehors puisqu'elle n'est pas romaine. Et en même temps, en gros, comme elle a été récupérée par les Romains, elle n'est plus vraiment germaine non plus. Donc elle est, elle aussi, le cul entre deux chaises. Donc j'ai que des personnages qui sont en dehors du truc. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, en dehors et loser.
Et loser jusqu'à un certain point, on va dire. En tout cas, pour
ouais,
certains...
Pour moi, vraiment jusqu'au bout. Hein.
Ah ouais,
même avec la fin. Ouais, non, je trouve que c'est quand même la grosse lose.
Bon.
Et c'est ça qui me plaît.
D'accord. Johan, vos romans que vous envoyez en Amérique, justement, est-ce que le décalage culturel qui se crée là-dedans peut vous inspirer autre chose ? Est-ce que déjà, on est dans un roman jeunesse, hein,
oui,
je crois,
ouais.
Est-ce que ça a une dimension particulière justement d'écrire pour un jeune public sur une histoire comme ça ?
Alors, honnêtement, non. Quand j'écris pour les adolescents, je ne pense pas que j'écris spécifiquement pour ce public, d'ailleurs parce que dans les faits c'est faux, on est lu pour une bonne part ou parfois par des lecteurs, enfin de tous les âges, des lecteurs adultes, donc, et puis moi-même j'estime qu'un adolescent peut tout lire, donc je l'écrirai en tout ce qu'il faut pour le déroulement de mon intrigue, de mon histoire. D'ailleurs, je citais certains passages où il y a des rituels d'absorption de certaines choses hallucinogènes. Normalement, c'est pas le genre de choses qu'on trouve en jeunesse. Surtout que je dis pas que c'est mal. Donc, voilà. Et en plus, le message, s'il doit y en avoir un, c'est un bien grand mot. Moi, c'est une sorte. Enfin, je montre les vertus de la désobéissance, parce que sans, mon seul personnage qui s'en sort, c'est celui qui, à un moment, a dit métaphoriquement merde à ses supérieurs et dit non, je vais peut-être un petit peu agir par moi-même. Et voilà. Donc. Ça, c'est pas forcément les...
Mais au niveau civilisationnel, par exemple, est-ce que là, il y a une certaine pédagogie à adopter ?
Alors, non, enfin, du moins, c'est vraiment pas une question que je me pose. Alors, moi, j'essaie de respecter une certaine réalité, enfin, je me documente, etc. Je présente effectivement des aspects, je pense, pas très, très connus, bon, bah, de la vie quotidienne, autant des deux côtés, autant du côté romain. Par exemple, à un moment, il y a une scène, je montre comment, chaque fin de journée, la Légion en place remontait un camp, etc. Enfin, voilà, là, c'est basé sur la réalité historique. De même que, voilà, une fois que mon personnage principal est confronté à certaines tribus, alors je suis désolé, je l'écris un petit moment, j'ai oublié le nom réel des tribus indiennes, mais bon, c'est difficilement prononçable, mais je montre, voilà, des choses basées sur, alors, c'était basé sur les récits, en fait, des premières coureurs des bois, etc., mais enfin, ça n'avait guère varié. Donc s'il doit y avoir un côté pédagogique, c'est dans ce petit côté démonstratif, effectivement, parfois, de ce quotidien, côté romain, côté indien, effectivement, oui. Mais c'est pas, voilà, ce ne sont pas des pages de manuel d'histoire. Voilà.
J'entends bien. Mais parfois, peut-être, je pensais, par exemple, au vocabulaire.
Ah oui, il y a tout un... Alors oui, alors, en revanche, voilà, je ne me prive pas d'utiliser le vrai vocabulaire technique. Alors, quitte, je crois qu'on a inséré aussi dans ce volume-là un glossaire final pour rappeler, voilà. Mais il y a tous les termes employés, effectivement, tout le jargon militaire romain, et également nombre de termes issus, enfin, par exemple, ce sont des traductions, bien sûr, enfin, des légendes indiennes, etc. Enfin, voilà. Oui. Quand le bon mot existe, il faut utiliser le bon mot, et ça, voilà. Et ce sera, à mon avis, une erreur, sous prétexte de s'adresser à des jeunes lecteurs, que de vouloir simplifier ces choses-là. Bon.
Julien, on a dit que c'était un livre drôle, il faut quand même aussi qu'on parle un peu de cette dimension parodique hein, qu'il peut y avoir dans la plume du Quetzalcoatl. La partie où Artorius et Dom arrivent en Amérique, ils arrivent donc dans ce qui, chez nous, serait Ellis Island, avec exactement les mêmes processus qu'avaient les migrants qui arrivaient aux États-Unis. On se retrouve dans un New York, qui, donc un néo-Rhodes qui est tout à fait réaliste et qui pourrait... Là aussi, il y a une volonté un peu de s'amuser avec ces romans américains de l'époque.
Oui, voilà, il y a quelque chose... Bah, déjà, c'était amusant d'expurger... tous les codes de la côte est et même de la côte ouest, de tout ce qui est anglo-saxon. Et c'est vrai que déjà pouvoir s'amuser avec tous les noms pour essayer de retrouver les racines étymologiques des choses des questions qu'on se pose pas, c'est-à-dire comment d'où est-ce que vient le terme de mug, par exemple. Donc c'est vrai que là, moi, je me suis amusé à déconstruire ça pour ensuite essayer de... Alors, je ne suis pas latiniste, mais du coup, je m'amuse à rechercher, par exemple, comment on aurait pu avoir un sport comme le baseball ou le softball, mais en y trouvant des origines à la fois saxonnes et latines, et de mélanger les deux pour essayer de trouver...
Même la partie steampunk joue là-dessus aussi, avec des appareils étranges qui ont des noms à double ou triple sens.
Voilà, avec des noms de firmes très connues qui vont participer à la construction historique des États-Unis. Et c'est vrai que je m'amuse à redéconstruire justement... étymologiquement en sens pour retrouver la même chose en latin et le calquer sur cet univers.
Et alors Johan parlait tout à l'heure de l'éventualité que les vikings soient arrivés les premiers en Amérique. Vous, oui.
Oui, c'est acquis.
C'est assuré.
C'est acquis. Et c'est du coup la course en avant entre Rome et les vikings parce qu'ils sont arrivés en premier et qu'il fallait bien réagir. Et
donc vite. Il reste toute une partie effectivement qui est marquée par cette empreinte viking.
Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a ce mélange latin et saxon qui perdure dans cet univers.
Alors vous voyez qu'à partir de simplement cette image qu'on peut avoir de la Rome antique, hein, le thème c'était « Tous les chemins mènent à Rome », vous voyez qu'on peut même en partir, et même parfois en partir très très loin, à la fois dans le temps, dans la géographie, et puis également dans l'imaginaire, pour arriver à des choses extrêmement variées, dans les genres les plus différents. Je pense qu'en fonction du lecteur que vous êtes tous les uns et les autres, il y aura peut-être un de ces livres qui vous intéressera le plus et qui vous attirera peut-être le plus. Vous verrez qu'il y a énormément de surprises dans ces différents romans, qu'il se passe énormément de choses, parfois totalement inattendues, ou d'autres comme pour Foror, où on a envie de les aider et puis on n'y arrive pas, on est impuissant, mais allez jusqu'au bout parce que vous verrez que c'est là encore très étonnant et vous êtes confronté à 4 imaginaires qui symbolisent parfaitement ce que sont les imaginales et la diversité que tout ce festival peut représenter pour vous. Merci en tout cas à nos auteurs et puis vous pouvez évidemment aller continuer les discussions sous la bulle du livre et retrouver les ouvrages, ceux-ci et les autres. Merci beaucoup.
Merci.